Hello tout le monde, c'est Saad et bienvenue dans le Saad Ben Show, podcast dédié aux entrepreneurs en ligne, dédié aux e-commerçants et toutes les personnes qui souhaitent devenir libres. C'est parti. It's all for you. It's all for you. Freedom. Keep your ears to the ground. We're talking about the freedom. It's the best show in town. Best show in- Hello les amis, bienvenue dans un nouveau épisode du Saad Ben Show. Alors dans cet épisode, nous allons voir tous les conseils que a donné Adam pour son petit frère qui est en train de passer le bac en ce moment même.
Yes, une bonne discussion intéressante qu'on n'avait pas préparée où on pèse le pour et le contre de suivre sa passion versus la récompense financière. On va voir un petit peu où est-ce que ça nous a amené. On va aussi parler du voyage de Saad qui a voyagé pendant 24 heures. Qui a hésité à prendre un jet.
C'est exactement ça. Nous allons voir la façon de voyager des riches, comment ils arrivent à voyager.
Montre-nous.
Sans valise. On va voir tout ça en détail.
Après, on va voir une autre façon de voyager. On va discuter du temps de trajet aussi. Tu as certaines personnes qui habitent à Bordeaux en France, qui travaillent à Paris, à plus de 3 heures de train tous les jours. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que ça vaut le coup selon nous? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer tout ça? Restez bien avec nous jusqu'à la fin.
À tout de suite. Hello les amis, bienvenue dans le Saad Ben Show, épisode numéro
114 ou 115.
Je t'avoue,
tu m'as regardé, je sais pas.
J'ai un doute.
Bienvenue dans l'épisode. Mais pour notre défense, j'ai écouté d'autres podcasts aussi. Ouais. J'en écoute pas mal. On n'est pas les seuls à être perdus dans les épisodes.
Ok.
Il y a souvent des gens qui se... Entre l'épisode que tu viens de publier, que tu es en train de tourner, des fois on s'en mêle les pinceaux. Vu que maintenant, on fait la majorité des épisodes pas en direct, comme vous l'avez expliqué il y a quelques temps, pour une meilleure qualité et pour ne jamais rater aucun épisode, même quand on voyage.
Exactement.
Justement, on va bientôt, après-demain, dans 2 jours, là. C'est Bali, finalement. On en parle au compte-goutte à chaque fois. Depuis maintenant... Deux ans et demi, presque. Je crois que la première vidéo sur la chaîne Saad Ben du projet Freedom Villa date de
trop longtemps, malheureusement.
Août 2021, quelque chose comme ça. C'est tellement loin. J'ai l'impression c'était...
Attends, je vais te dire tout de suite.
T'es dans une autre vie.
J'ai l'impression que ça a été en 2020.
Hein. Non.
Écoute, on va découvrir ça.
Je pense pas. Je pense que c'était 2021. Et ça fait deux ans et quelques maintenant aujourd'hui avec tout ce qui s'est passé entre temps, les retards, les matières premières, les confinements, les machins, tous les trucs. Ça a pris pas mal de retard. Et là, on va aller faire la réception lundi. Enfin, lundi, on va à Bali et le 15, on fait la réception officielle et on a un caméraman avec nous qui va tout filmer pour l'épisode de livraison qui sera disponible sur YouTube.
Ouais, l'épisode peut...
On annonce.
Final, plus ou moins.
Final, ouais. Après, je pense qu'il y aura peut-être un épisode bonus 6 mois plus tard, 1 an plus tard.
Ah non, ça va. Et la dernière vidéo date de 1 an.
La première, tu veux dire?
Ouais, la première vidéo de...
Après, YouTube, il te dit 1 an. Suffit que c'était en 2022 ouais. Et c'est 1 an pour lui. Donc, on peut dire que c'est janvier 2022. Mais je pense que le projet, on avait commencé à le discuter 2021. On les a contactés et on a décidé de faire une série YouTube juste après, etc. Donc, voilà. Bah, écoutez... Au moment où vous écoutez ce podcast, peut-être qu'on est à Bali. Donc, regardez nos Instagram.
C'est certain. Ils regardent le podcast, oui.
Ouais. Regardez nos Instagram, surveillez les réseaux sociaux, la chaîne Saad Ben, projet Freedom Villa, si vous voulez voir la conclusion de cette nouvelle aventure. Enfin, la conclusion. Conclusion de la construction, mais début du projet immobilier en lui-même.
Ouais, c'est ça. On partagera peut-être aussi...
Ça dépend de l'engagement. Si tout le monde s'en fout, on partagera rien.
C'est ça. Ça dépendra aussi de votre engagement. Peut-être qu'on partagera tout ce qu'on fait côté marketing, les chiffres de la villa derrière, la rentabilité, tout ça. On vous tiendra au courant. Et en parlant de voyage, j'étais juste hier à Phuket. Une première fois que je fais ça en Thaïlande. J'ai passé
en jet.
24 heures et je suis revenu en fait.
Ok.
Et justement, c'est drôle, mais franchement, un jet, c'est sympa quand même. Hein. Quand, dans des situations comme ça,
comment ça
où je devais... moi, je suis pas allé en jet, mais j'y pensais, tu vois, à l'aéroport. Déjà, je suis allé juste avec un sac à dos.
OK.
Donc, vous voyez, je crois que c'est la première fois que je le fais. Avec un sac à dos, peut-être une fois au Maroc.
Mais c'est vraiment sympa de voyager en avion pas, sans valise en fait.
Mm.
C'est genre tu es dans un taxi, tu prends le bus en fait. Tu prends le bus, tu montes dans l'avion, tu es à Phuket dans une belle plage.
C'est une heure d'avion quoi.
Ouais, tu peux prendre et puisque Bangkok Phuket il y a plein d'avions.
Ah, il y en a 10 par jour au moins.
10 par jour, ouais. Voilà, c'est comme littéralement le bus en fait. Tu prends le bus et donc ouais, c'était sympa de vivre cette expérience là, d'aller profiter de la plage, dormir à Phuket et revenir le lendemain matin. Donc c'était assez sympa. Je pense à refaire.
T'as une team de gens des digital nomades qui voyagent pas mal qui ont, c'est la team pas de bagages en soute. Ma vie doit tenir dans un sac à dos et souvent ils ont leur PC, ils ont trois fois le même t-shirt, deux fois le short, les sous-vêtements, ça tient dans le sac à dos et ils ne voyagent jamais en avec un bagage en soute. C'est même une hérésie. Si tu as un bagage en soute, tu fais partie de la plèbe du bas peuple en fait qui n'a rien compris parce que t'attends à l'aéroport, t'attends des heures ton bagage est perdu, lui il est déjà sur la plage à Tulum.
Ouais.
Toi, t'es à l'aéroport.
Ouais, je suis aussi de la team, pas de leur team, mais team pas de bagages, mais team plutôt. J'ai ma CB, j'ai mon PC, c'est tout. Hein. J'achète des vêtements là-bas. Pourquoi?
Ah, c'est pour créer une nouvelle team, ça. Excuse-nous. Hein.
Pour avoir un sac à dos, prendre trois t-shirts. Non, t'achètes tout sur place.
Et après,
Tu donnes à des gens.
Il a travaillé son pitch. Parce que la parade, c'était ouais, t'as un salaud de consommateur.
Tu fais des donations après. Tu donnes tout ce que tu as acheté à une association ou peu importe, à quelqu'un qui en a besoin. Et tu repars libre,
qui fait léger. Qui fait ça en vrai?
Ah si, si. Genre, moi,
j'ai jamais entendu.
Malheureusement, je n'ai pas inventé l'idée.
Okay.
Malheureusement, je n'ai pas inventé l'idée. C'est un Américain, un billionnaire qui fait ça en fait. Non seulement il fait ça, mais lorsqu'il a un événement spécial, son assistante...
Mm-hmm.
Envoie sa valise séparée en fait.
Ouais, j'avais entendu ça.
Elle envoie sa valise séparée à l'hôtel. Donc elle est envoyée par je ne sais pas quoi.
Mmh.
Et en tout cas, lui, il n'a pas de problème de valise. Il arrive à l'hôtel.
Tout est là-bas.
Dans la chambre. Ouais. Tout est rangé dans le placard de l'hôtel. C'est ça. C'est...
Au Japon, ils ont un système comme ça qui est assez connu où tu envoies ta valise. Genre, tu prends le train, parce qu'il y a pas mal de trains au Japon pour aller du nord au sud. T'envoies ta valise ailleurs et toi, dans le train, t'as pas des grosses valises de 30 kilos. Surtout que quand c'est pas ton pays, tu pars deux semaines, par exemple. Et franchement, c'est pas mal. Hein. Même t'atterris à l'aéroport, genre à l'aéroport de Tokyo, et dans trois jours, tu vas à Osaka ou j'en sais rien. Tu peux envoyer tout de suite ta valise là-bas. Toi, dans ton sac à dos, t'as trois jours d'habits et tu fais tes trucs à Tokyo. Tu vas à Tokyo, elle est à l'hôtel, la valise. Très
ouais,
japonais, très carré.
Même dans ton pays, hein, là, il y a quelques mois, on avait fait Bordeaux.
Dans mon pays, Bordeaux. C'est quoi mon pays? En France?
Ouais, Bordeaux-Paris. Ah, okay. Ouais, t'as plusieurs pays?
Non, je sais pas, tu m'as dit ça, genre, dans ton pays.
Ah non, je veux dire, même dans nos pays. Hein, je veux dire, parce que tu disais, lorsque vous n'êtes pas dans votre pays.
Ah oui, oui, oui.
Et même lorsque vous êtes dans votre pays, ouais. En fait. Bah, récemment, on avait fait Bordeaux-Paris, il n'y avait pas de choix d'avion, il fallait prendre le train, c'était le plus efficace, le plus rapide. On avait deux grosses valises parce qu'on venait de la Thaïlande.
Ouais.
Et franchement, c'était dur. Hein. Déjà, de trouver un emplacement pour la valise. Ouais. Déjà, c'était rempli. Il fallait bouger les valises. Tout le monde m'a regardé.
Qu'est-ce qu'il fait, le bon Zé?
Le grand Daga va toucher le grand A, va toucher mes sacs. Franchement, j'ai eu des regards. Je vais faire quoi? Je vais rester debout avec ma valise, non?
Ouais. Tu sais que là, récemment, j'ai vu, alors j'ai pas les détails, mais la France a interdit les vols aériens, pas encore, les vols aériens courte distance qui peuvent être remplacés par un trajet de train équivalent à 3 heures, un truc comme ça, dans la tranche des 3 heures. C'est-à-dire que ils ont délisté les vols. Tu peux plus faire un vol genre, je sais pas, Paris-Lille, par exemple. Parce que tu peux le faire en train et ça dure moins de 3 heures. Je crois que c'est ça la règle pour les 3 heures, mais il y a une règle d'heure. Et ce qui fait qu'ils ont tué tous les petits trajets locaux comme ça, sous couvert de réchauffement, blablabla, climatique. En tout cas, du coup, tu vas avoir beaucoup plus de monde dans les trains maintenant. Là, tu peux en être sûr. Et surtout, c'est beaucoup plus cher aussi, les trains. Alors, c'est bien. Mais sur le papier, des gens, ils faisaient le comparatif. Des fois, c'est 3 fois plus cher, le train.
Mmh.
Ce qui est surprenant, quand tu compares à un avion et tout, tu penserais pas. Mais au final, si.
OK.
C'est les premiers au monde à faire ça.
En tout cas, je trouve les trains très peu, très étroits, en fait. C'est pas fait pour... Je sais pas, c'est une taille asiatique, mais c'est en
franchement,
Europe, tu vois.
Ouais, j'ai pas pris beaucoup le TGV, mais là, on a fait Paris-Bordeaux. C'était blindé.
C'est optimisé à fond.
C'est, on était quatre et mes genoux touchaient les genoux de la personne d'en face. En fait.
Aussi, ouais.
C'était dès qu'on bougeait, je mettais des coups de genoux. Pardon. Mmh. Et je me dis qu'il y a des gens quand même qui font ça tous les jours. Hein, parce que t'as beaucoup de monde qui, on en parlait avec nos amis de Bordeaux, qui ont. C'est l'exode en fait des Parisiens qui ont fui Paris, qui habitent à Bordeaux et qui font le trajet TGV tous les jours.
Je l'ai fait. Hein, je l'ai fait pendant 6 mois. C'était même pas en TGV, c'était en train. Normal, tu vois. Donc, c'était...
C'est combien de temps ? Une heure, ouais.
Non, c'était 40 minutes à peu 40. Près.
À Bordeaux, c'est quand même 2 heures.
Ouais.
2 heures et quelques.
Après, 2 heures, c'est encore... Je sais pas comment tu peux le faire. Je sais pas si...
Ils sont...
Je sais pas si c'est humainement possible.
Je pense que ça t'use, en fait.
Je sais pas qui peut faire ça.
Ça te ronge. Si, ça existe. Si. Ah, si, c'est... Tu as des milliers
jours,
de personnes.
Tu fais 4 heures de train.
Ouais. Matin, hop, il part. Il rentre le soir, boum. Parce que son loyer lui coûte 4 fois moins cher.
Attends, tu fais comment mais...
Le coût de la vie coûte 2 fois moins cher. Enfin, coûtait.
Il commence à quelle heure le boulot au matin?
Disons 9h, quoi.
OK.
Bah, il prend le train de 6h30, tu vois. T'arrives Paris, gare de Austerlitz, je crois. Je sais plus. Bref, t'arrives à peu près dans le centre de Paris. Et après, bah, soit il est pas loin, soit il prend un peu de métro. 20 minutes, peut-être.
Ok.
Et au bureau à 9h.
Espérant que voilà, il rate pas le train et tout est à la minute près.
Ouais.
Et le soir, tu sors à quelle heure?
17, 18, okay. On va dire.
18. Tu rends,
18
prends
30.
Le train de...
Ouais,
de,
t'es chez toi à 20h30.
Ah ouais, donc l'embouteillage à Paris, t'habites à côté de la gare en gros. Tu travailles pas à côté de la gare...
Ah non, c'est violent.
Imaginons que tu travailles à côté de la gare. Donc 18h30, t'arrives à Bordeaux 20h30.
Ouais.
Pour rentrer chez toi, disons...
21h, ouais.
21h.
Tu manges, tu fais un bisou à tes gosses et c'est reparti. Mais c'est vrai. Et tu vis les week-ends.
Ah, c'est compliqué. C'est chaud. Parce que moi, je me rappelle 40 minutes, c'était chaud. Sans enfant, sans femme, tout seul.
Mmh.
J'ai déjà eu des fois où je dormais avec mes vêtements, en fait, de travail, en fait.
Mmh.
Parce que j'étais tellement KO le soir, j'en rentrais tellement KO le soir. Je m'évanouissais en fait.
Ouais.
J'avais même pas la force de me faire à manger. Tellement j'étais fatigué, tu vois. Et je me réveillais le lendemain. Allez, on reprend la routine. Allez, on reprend la gare.
C'est pour ça que moi je trouve que la composante de se dire tu peux bosser de chez toi, elle est vraiment sous-évaluée. Enfin, les gens s'en sont rendus un peu plus compte quand même depuis 2020. Mais la dernière fois, on en parlait. Je disais que moi, par exemple, je préférais gagner 3000 euros et bosser de chez moi que gagner 5000 euros et me taper 40 minutes de train et 20 minutes de métro. Et il y avait des gens dans les commentaires, je crois que c'était sur YouTube, qui se moquaient de moi. Ils disaient, qu'est-ce qu'il raconte ce clown, 5000, c'est mieux. Non, c'est vraiment pas mieux du tout. Parce que, en fait, personne fait les comptes des centaines d'heures, voire milliers d'heures que tu as passé dans ton train et dans ton métro qui servent absolument à rien, en fait. C'est le temps de perdu ultime sur une vie. C'est des mois et des mois perdus dans les transports. Et d'un coup, tu peux balayer tout ça. Bam, tout ça n'existe plus. C'est magnifique. C'est magnifique dans le sens où Internet est...
Est-ce qu'on peut... Le focus on him is not very good. Donc ouais, carrément, la routine vraiment est très, très usante, en fait. Et c'est dommage que beaucoup de personnes subissent ça.
Mmh.
Parce que, comme tu as dit, le loyer coûte plus cher. Économiser ici, par-ci, par-là.
Je voyais des Instagram, des TikTok, des machins sur les loyers à Paris. Ça a toujours été une blague, mais là, ça a atteint des sommets ridicules où tu payes des chambres de 10 mètres carrés, 800 euros, des trucs comme ça, des trucs insalubres sans toilette. Tout ça parce que ton job est là-bas et tu dois être là-bas.
Est-ce qu'il doit être là-bas? Ça, c'est une autre question.
Est-ce qu'il doit être là-bas?
Est-ce que tout le monde doit être à Paris? Est-ce que tout le monde doit faire ça? Est-ce que tout le monde a besoin d'économiser, en fait, de subir, en fait, tout ça, en fait?
Ça dépend pour qui, en fait. Pour que l'entreprise tourne ou pour toi dans un but perso?
Je sais pas, j'ai l'impression que peut-être des gens, en fait, subissent ça pour de mauvaises raisons, en fait. Je vais aller travailler à Paris pour toucher un bon salaire.
Mm-hmm.
Et en même temps, je vais aller à Bordeaux pour économiser, pour, je sais pas, acheter une voiture, pour impressionner le voisin, pour...
Ouais, ça te met dans un engrenage au final.
Parce que je connais des personnes qui étaient de mon école qui avait fait tout le parcours, tu vois. Et surtout une personne spécifique que j'avais croisée aussi à Paris il y a quelques années, mais qui était vraiment dans cette adresse, super stressé. Il aimait pas du tout son boulot. Mais il y avait tous les arguments pour quitter, en fait, tu vois. Mais il était bien payé, en fait. Mmh. 3 000, 3 500 euros, tu vois. Et je me disais, c'est fou quand même. Il va passer la majorité de sa jeunesse, de sa vie, dans cet environnement-là, pour un salaire, en fait. Pour un salaire un petit peu au-dessus de la moyenne. Mmh. Pour impressionner je ne sais pas qui, tu vois. Je trouve ça triste, et c'est malheureusement la réalité de plusieurs personnes aujourd'hui. Je pense que la plupart des gens se mettent dans des situations comme ça difficiles, mais ils ne savent pas pourquoi. En fait. Ils sont un petit peu dans...
Ouais, c'est un pas après l'autre. Quoi. Ouais, j'ai fait mes études, bon, bah, faut trouver un taf. Y a un travail là-bas, j'y vais, bah, j'ai des factures, donc je dois rester. C'est le dicton, le mauvais dicton, là. Tu prends ta voiture pour aller bosser, pour rembourser le crédit de la voiture parce que tu l'as acheté pour aller bosser. Et c'est dommage, mais de plus en plus de gens quand même s'en rendent compte via Internet, via tout, hein, et via le fait que aujourd'hui c'est des sujets qui sont beaucoup plus discutés qu'avant. Et il y a des portes de sortie. Ouais, pas après, facile, mais elles sont là.
Voilà, c'est ça. Après, on n'est pas naïf, on sait que les grandes villes, c'est là où il y a le plus de chances de travailler.
Tu vas dans le centre de la France.
Etc. Mais je suis sûr que la plupart des gens n'ont pas vu leur autre option, tu vois. Je suis sûr qu'il y a plein de personnes où tu pourrais trouver, par exemple, le même job dans une autre petite ville, dans un coin un petit peu perdu, entre guillemets, dans ton pays, où tu vas être payé moins cher.
Ouais.
Moins stressé, mais les gens ne vont pas faire ça.
Souvent, je pense qu'ils y vont quand ils sont jeunes. Ils se disent, je vais faire 2-3 ans là-bas, monter en expérience, économiser de l'argent. Et au final, ils se réveillent 10-15 ans plus tard à se dire...
Tu ressors avec 5 crédits et t'es enchaîné à vie.
Et tu peux quitter. Ouais, carrément. Carrément. T'as la voiture, t'as les machins, t'as le pavillon en banlieue. Et au final, t'es 3 ans vite fait à Paris en tant que célibataire. T'en ressors 20 ans plus tard usé et avec, comme tu l'as dit, malheureusement, possiblement des dettes hautes. Ouais, il faut pas... Tu sais jamais ce qui va se passer sur 3 à 5 ans, donc c'est clair qu'il faut mesurer ses décisions le plus possible. Mais dans l'idée, ouais.
Ouais, c'est...
Une fois que t'es dedans,
ouais, comme t'as dit,
il faut mettre de l'énergie pour sortir, c'est pas de secret.
Ouais, c'est important de définir un plan, en fait, sur long terme, tu vois, 5, 10 ans, 15 ans, qu'est-ce que je veux faire, comment je veux le faire et pourquoi je le fais, en fait. Et dans ce pourquoi aussi creuser plusieurs fois, en fait. Et ce que j'ai repéré ici à Phuket, en fait, je suis parti parce que il y a un ami à moi qui organisait un mastermind et j'y allais comme intervenant. Et il y avait beaucoup de jeunes, en fait, dans l'audience, beaucoup de, voilà, 21 ans, 22 ans. C'était peut-être leur première année dans le business en ligne, etc. Et c'est fou comment ces jeunes-là, en fait, ils ont zéro vision, en fait. Ils vivent le jour le jour. Il n'y a aucun plan sur, même pas un an, tu vois. Ils ne savent pas ce qu'ils font, pourquoi ils le font. Mais juste, ils le font, en fait. C'est vraiment affolant. Et je leur posais une simple question, tu vois. Qui veut devenir libre financièrement? Tout le monde a levé la main, tu vois. Il y a un groupe de 60 personnes. Tout le monde a levé la main. Ok, super. C'est quoi la liberté financière? Tout le monde a baissé la main. C'est fou quand même. Je pense que c'est... Encore une fois, c'est pas les seuls. Je pense que c'est la majorité des gens. Tout le monde veut la liberté financière, mais ils ne sauraient pas la définir, tu vois. Il n'y a pas une seule définition. Hein. C'est pas... Je ne vous donne pas la définition du dictionnaire, mais quelle est la définition pour vous, en fait? Qu'est-ce que, pour toi, tu fais tout ça pour la liberté financière, ben, qu'est-ce que c'est pour toi, en fait? C'est quoi le chiffre exact? C'est quoi la méthode exacte? Et je ne savais pas à quoi. Comment répondre à ça? C'est fou, hein?
Ouais, c'est vrai. Ça m'étonne pas, en soi.
T'es en mode robot, en fait. T'es zombie, en fait. Tu suis même dans l'entrepreneuriat, en fait, tu peux être en mode.
Bien sûr.
Je suis la meute, tout le monde est là.
80% des entrepreneurs, ils suivent un petit peu la vague de ce qui se passe, hein. Je fais un petit peu ce qu'il faut faire. C'est pas parce que t'es entrepreneur que du jour au lendemain. Tu n'as plus tous ces concepts qui s'appliquent à l'humain et qui sont qui sont transposées du salariat classique. Ça, c'est clair. Je vois souvent des entrepreneurs dire, ah, ils s'excitent dans leur podcast et dans leur reel sur TikTok à dire, ah, salariés, ils sont pauvres, ils sont cons, ils machin. La majorité des jeunes entrepreneurs aussi, c'est pas parce que t'as dit, ça y est, je suis à mon compte, je quitte mon job, que t'as pris 10 ans d'expérience et de maturité là-dessus. Ça, c'est clair. Donc, il faut faire le travail, bien sûr. Deux fois plus même quand t'es entrepreneur, parce que c'est ton bateau. T'es le capitaine, t'es le moussaillon, t'es le canonnier, t'es le cuisinier, tu dois faire tout en fait. Donc c'est à ce moment-là qu'on voit vraiment si t'as un plan, si tu peux l'exécuter, si tu peux t'entourer d'un équipage ou pas. Parce que y a pas de planque dans l'entrepreneuriat en fait. Autant dans le salariat, tu peux être un peu planqué. D'ailleurs, une stat marrante, j'avais vu qu'il y a aux États-Unis, je sais plus, mais t'as genre 10% des jobs qui sont des bullshit jobs. C'est des travails où y a rien, personne fait rien. Et j'ai vu des blogs de gens qui racontaient ça. Ben voilà, j'étais employé chez Facebook.
Les salariés fantômes, ça.
Ouais, je suis arrivé chez Facebook. Je dis à mon manager, c'est quoi le projet? Il me dit, il y en a pas. Tu commences dans 6 mois ton projet. Trouve un truc à faire et fais ce qui te plaît, quoi. Et tous les 6 mois, il lui disait ça. Et le mec était payé là-bas. Et apparemment, t'as 10%, 10, 15% de bullshit job aux États-Unis. Des planques. Des vraies planques.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
T'es planqué.
Et je pense qu'il y a un autre stat aussi qui dit que dans une entreprise, t'as 4 salariés qui font le travail de 80% de la société, du genre. Tu vois.
Ouais, les autres, ils gravitent autour, ouais. Ils ajoutent une idée ou deux en réunion, t'es présent au moment des réunions, tu lèves la main une fois. Ah oui, il y a des gens qui sont devenus experts dans l'art de faire semblant de s'impliquer.
C'est à tel niveau, hein, un plus gros exemple récemment, c'est Twitter avec Elon Musk. Il a fait le bad
c'était
buzz.
C'est flagrant.
Et aujourd'hui, Twitter se comporte très bien. Et c'est fou. Il a cut la moitié, je crois. La moitié, c'est
80%.
80%.
80%.
On parle d'une société qui vaut des milliards. Ouais. Cotée en bourse. Le mec, il vient en une semaine.
Il a viré 80%
des gens. Il a
viré
80% des gens. Et ça continue de fonctionner aujourd'hui. Il y en a même qui disent que c'est encore mieux qu'avant.
Franchement, moi, je trouve beaucoup mieux qu'avant. J'étais pas du tout utilisateur.
C'est fou, hein.
Ouais. Il a, en termes de fonctionnalité, il a changé plein de choses. La plateforme tient très bien, que ce soit le technique, le fond, la forme. Et au final, bah, tu te rends compte, 80% des gens, ils étaient à Twitter. De toute façon, tu les voyais. Ils faisaient des contenus sur Instagram. Me voici sur le campus de Facebook, Twitter. 8 heures, réunion. La réunion, elle durait 20 minutes. Tout le monde racontait sa vie. 9 heures, on va au café offert de la cafette. 10 heures, on va sur le rooftop. Midi, on mange. Je disais, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Et en fait, personne ne faisait rien.
Ouais, des fois, il faut faire gaffe quand tu fais grossir ton business, ton équipe derrière. Ouais,
t'as des planqués, t'as des infiltrés.
Ouais, et des fois, le système il devient trop lourd et ça se retourne contre toi en fait.
Faut purger un peu des fois. Ouais.
Voilà, t'as le patron, le patron capitaliste, il faut purger les employés.
Bien sûr.
Mais il n'y a pas que le travail, Adam, dans la vie. Il faut travailler dur, c'est ça que tu nous dis?
Aujourd'hui, moi, je pense que par respect juste pour tes meilleurs...
Pour un sale patron, pour acheter une deuxième Lamborghini, c'est ça?
Par respect pour ton équipe, t'as un top performer qui est là. Le meilleur moyen de l'aider, c'est de purger un employé du bas qui bouffe l'énergie de ton chef d'équipe, par exemple, qui bouffe son temps, qui bouffe ses ressources. Ne serait-ce que pas pour toi, pas pour le financier, mais pour elle et pour cette personne qui est justement top. Et justement, ça se traduira par des résultats financiers.
T'es en train de sauver un humain en sacrifiant un autre humain, c'est ça?
Yep. Ben, le moyen, c'est comme la gangrène. Le meilleur moyen, c'est de tu coupes les doigts, tu coupes aux doigts et tout va mieux tout de suite. Sinon, après, ça va partout. Au final, je me rends compte que dans l'équipe, il y a machin. C'est pas tant que ça, en fait. Voilà. Peut-être que moi, je devrais un petit peu ralentir.
Ouais, c'est sûr. En fait, c'est pas question d'être sympa ou d'être poli. En fait, si tu prends pas la bonne décision en tant que patron, bah, c'est toute la société à un moment donné qui va en souffrir et tu devras virer tout le monde, en fait. Tu vas te virer toi-même aussi, tu vois. Donc, ça fait partie de la vie d'une entreprise, en fait, toute entreprise, pour que quand tu te servissais l'entreprise avant tout, en fait. Et des fois, virer des gens, et c'était une des choses les plus dures aussi que j'ai eu à faire dans mon parcours d'entrepreneur, bah, c'est virer des gens, en fait. Surtout que on te rapproche avec Adam, voilà, elle est très, on dirait une approche très sympa, familier,
bon,
tout ça.
Quand même.
Donc des fois, bah, quand tu vires des gens, ça, c'est pas évident. Bah, juste ça que je comprends, en fait, c'est que, bah, comme tu as dit aussi, non seulement ça fait pas du bien à la société, mais aussi pour la personne, en fait, que tu ne vires pas, en fait. Quelqu'un qui n'est pas performant, quelqu'un qui ne se donne pas à fond, c'est-à-dire qu'il n'est pas à sa place, en fait. Et tant que tu le gardes dans ton équipe, en fait, tu ne lui rends pas service non plus, parce que ça se trouve en disant, écoute, c'est pas ta place ici. Ça se trouve, il va trouver sa place dans un autre, endroit, en fait, dans une meilleure société. Ouais. Il pourra peut-être s'épanouir. Ou alors, ça va être un
déclic.
Un déclic, en fait. Mmh. Hein, il va se réveiller. Ah, on m'a viré. Ah ouais, c'est chaud, quoi. Qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce que je dois faire? Et beaucoup de gens ont besoin de ça, en fait. Et tant que, ils ont pas ce choc-là, ils sont pas réveillés.
Je suis d'accord. Et franchement, moi, je vais être honnête, je trouve que sur le marché, se faire recruter, c'est très dur de recruter des gens qui sont un minimum rigoureux, un minimum attentionnés et qui sont vraiment impliqués dans ce qu'ils font. Et 80% des candidats sont pas top du tout, hein. C'est très, 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 très dur de trouver des gens fiables. Et fiables, je mets pas la barre très haute, hein. Nous, on recrute pas mal dans différents postes et on recrute pour un poste où on fait un zoom ensemble d'accueil pour faire une période d'essai à ces gens-là. Donc, c'est un zoom groupé et on a presque tous les mois 8-10 personnes, peut-être un peu moins en ce moment, qui doivent venir à ce Zoom. Tous les mois, il y en a au moins 50% qui se pointent pas. Mais ces gens-là, c'est des gens qui ont répondu à une annonce LinkedIn. Donc, ils ont vu une annonce, ils ont postulé. Ils ont fait un premier entretien téléphonique. Ils ont répondu à des questions. Ils se sont fait accepter. Ils arrivent dans le Zoom pour leur expliquer la période d'essai et comment décrocher le poste à la fin. Ils se pointent pas. Pas de message, silence radio, ils sont pas là. 50% se pointent pas, 50% se pointent mais n'ont pas regardé la vidéo qu'il fallait regarder juste avant, qui durait 10 minutes, qui leur expliquait exactement en quoi faire. Ils arrivent, faut faire quoi? As-tu regardé la vidéo? Ah non. Le niveau, franchement, il est hyper bas, il est hyper accessible. Vous êtes un minimum sérieux et un minimum rigoureux, vous êtes déjà dans le top 20%, quel que soit le poste. Quel que soit le poste dans les entreprises aujourd'hui. Et ça se voit... Là, ça se voit dur comme fer. Hein. Quand tu es à la place du recruteur, tu te dis « Waouh, c'est chaud en fait. Ouais, » Tu ne parles pas des gens... ça, c'est les gens qui ont déjà passé tous les filtres. Hein. Ils ont passé l'annonce LinkedIn, ils ont passé l'entretien, ils ont passé l'entretien écrit et l'appel. Et tu as quand même des gros touristes comme ça.
Ouais, c'est encore une fois la différence entre ce que les gens disent vouloir faire et, leur action en fait parle encore plus fort en fait.
Ah, tu les écoutais.
Voilà, ils ont postulé, moi je veux travailler, etc. Je suis sûr qu'ils se disent autour de soi, on la cherche du boulot, je trouve pas, etc. Bah là, il a une opportunité, mais il se prend même pas au rendez-vous, en fait.
Non, mais les mecs, des fois, on a reçu des messages, c'est, ouais, j'étais parti faire les courses. De quoi tu parles?
Après, c'est un avantage pour le reste d'entre nous, en fait. Ceux qui sont rigoureux, la barrière n'est pas très haute, en fait. Voilà, soit avoir un bon job, avoir des bonnes performances, avoir, même dans le business, hein, business en ligne, se lancer dans le business aujourd'hui. Voilà, il ne faut pas être un génie pour se lancer. On est la preuve. Et tant mieux, en fait, c'est un avantage.
Ouais.
Parce que la majorité des gens ne passent pas l'action et ne font rien.
Oh, carrément. Mais pour recruter, ouais, ça reste toujours pas évident, franchement, pour agrandir. Je pense que c'est l'un des gros challenges. Le recrutement, c'est de plus en plus.
Trouver les bonnes personnes.
Trouver les bonnes personnes. Ouais, trouver quelqu'un qui sait trouver les bonnes personnes. C'est un chargé de recrutement, en fait. Quelqu'un qui est vraiment bon dans le recrutement. Ouais. C'est vraiment pas simple.
Si vous l'êtes, envoyez-nous un email.
Quelle que soit votre filière.
À contact@sadben.com.
Même si vous avez déjà un CDI bien payé, on pourra discuter. Si vous êtes chargé de recrutement en ressources humaines et vraiment solide et rigoureux ou rigoureuse, écoutez, on pourra vous éviter 2 heures de train par jour et la toxicité des collègues qui vous font du passif agressif le lundi matin pour rien, gratuitement. Là.
Je trouve que vous ferez partie d'une belle mission. Qui est enfin libre, le mouvement enfin libre. Donc ça aussi, c'est bien de travailler, mais c'est encore mieux de travailler dans une belle équipe avec une belle mission. Alors, je sais pas si tu as vu récemment la dernière nouveauté de Apple.
Ouais, j'ai vu.
Le casque de...
Je sais pas c'est quoi le nom.
De plongée, c'est Vision Pro.
Ok.
Vision Pro, et c'est un casque de réalité augmentée.
Donc, pas réalité virtuelle.
Non, c'est ça. En fait, c'est des sortes de grosses lunettes de ski.
Ouais.
Exactement le même design que tu mets et ça te permet de projeter des écrans bah, dans ton salon.
Genre ton iPhone et tout, quoi.
Ouais, c'est ça, ton téléphone, tu peux le projeter bah, dans ton salon. Tu
Donc,
tu as
les icônes qui flottent dans ton salon devant toi, là, comme ça.
C'est ça, tes icônes.
Et toi, tu cliques dessus.
Tes écrans, tu peux être au bord de la plage, mettre le casque, avoir un gros écran de cinéma au-dessus de l'océan et tu regardes un film. C'est intéressant que beaucoup attendaient ça depuis un moment et Apple a fait le premier pas. Par contre, ça va coûter assez cher. 3 500 $.
C'est juste, ouais.
Le casque, c'est
combien d'heures de batterie?
Très, très courageux de leur part. On va voir ce que ça va donner.
Combien d'heures de batterie?
Ça, j'ai pas vu.
2 heures.
Ah ouais?
Ouais. Ah bah, c'est une V1.
2 heures, c'est...
Ah, tu mets ton film rapide. Hein. S'il fait 2h10, le film...
Il faut pas regarder à Marvel. Hein. Les Marvel, c'est 3 heures.
Alors, 2h05, t'as loupé la fin. C'est mort. Tu dois charger le truc.
Ah ouais, d'accord.
Ah, c'est une V1. C'est une V1. Là, tu mets beaucoup dit, c'est pas un produit grand public. C'est vraiment un produit pour les geeks, les mecs de la tech. C'est pas un mass market, d'après eux. Quoi. C'est les mecs qui font des avis sur ce genre de produit qui disent ça.
Ok.
Ça va servir justement à regarder un peu et potentiellement sortir une version 2
tester,
en dessous des 3000. Mmh. Enfin, le prix va descendre forcément dans le temps, mais...
En tout cas, c'est intéressant cette vague hein, qui a commencé depuis un moment. Hein, parce qu'il y a Facebook qui est dessus depuis maintenant
J'ai vu Facebook, ils ont 80% des parts du marché sur les réalités augmentées. 80% avec leur truc Quest. Ils sont tout seuls en fait. Et Apple vient les titiller et justement Mark Zuckerberg avait fait une lettre interne qui a fuité où il disait voilà, j'attendais de voir les résultats et justement lui il s'est rangé derrière la mission de nous on veut donner ça à tout le monde, on met pas ça à 3 500 $, c'est pas nous, c'est pas notre valeur, on a des valeurs différentes chez Apple et Facebook. Et du coup il disait non, je suis serein, il disait ça à ses teams en interne.
Ouais, il disait que ça va aider aussi son le mouvement en fait,
si Apple
se lance dans tout ça, c'est-à-dire qu'il y a un truc et que ils ont bien repéré le filon il y a quelques années.
Il disait aussi que dans la pub d'Apple, tu vois que des gens tout seuls sur le canapé qui sont donc isolés socialement et que Facebook Quest c'est pour réunir les gens et pas les isoler. C'était ça. Et c'est du langage pour parler quoi, hein. C'est pour dire mais
ouais, il y avait une scène dans la vidéo où tu avais un papa avec ses enfants clés.
Ah mais il en a pas
avec
parlé.
Avec le casque. Mais c'était chelou quand même. C'était l'anniversaire je crois des enfants. Ah, t'avais un papa avec le gros casque, il l'a regardé, tu vois.
Ah mais c'était. Mais tu sais ce qui va se passer, c'est que tout le monde va mettre son casque et ça va faire des visioconférences alors que on sera dans le même appartement. Tu vas être dans la chambre, on va se faire une visio avec le grosse lunette. Repas, table, on va manger. Tout le monde sera en train de regarder son film dans ses lunettes, en train de manger. Comme ça.
Ouais. En tout cas, ça ouvre des nouvelles portes. Même pour nous, en tant qu'entrepreneurs, je pense que c'est nous, un nouveau placement dans les pubs, tu vois.
Les pubs dans devant.
T'es en train de regarder un film et t'as un pop-up qui, en 3D, en 4D plutôt, hein, qui ressort dans ta tête.
Oui. C'est sûr. C'est sûr. Toujours un billet à faire quelque part. On va pas se le cacher.
C'est un nouveau placement, bien sûr. C'est un nouveau.
C'est là où est l'attention humaine.
Bien sûr. C'est un nouveau outil de consommation. Et forcément, ça sera monétisé par de la publicité. Donc voilà, ce sera de la publicité 4D, des hologrammes.
Ça dans 4D qui arrive chez toi.
Avec une coconate, tu vois. Hey, tu as une coconate?
Et ça, par contre, moi, tu vois, enfin, jamais dire jamais, mais tu vois, j'ai une famille, j'ai des gosses, j'achète pas ça, tu vois. Déjà, quand je vois les téléphones, comment ça peut te retourner le cerveau d'un enfant. Et je vois des gens là, ils donnent des... Ils sont complètement malades. Ils donnent TikTok à des gosses de 1 an. Hey, tiens, vas-y, arrête de crier, là, prends TikTok. T'as le gosse de 1 an qui swipe comme ça. J'ai même vu des gosses sur TikTok. Ah, t'imagines le truc. Des vidéos de son père le prenaient et rigolaient, tu vois. Le gosse, il a 2 ans. Il est en train de jouer à je sais pas quel jeu. Et en même temps, il swipe sur TikTok, tu vois. Il a une main sur chaque truc. Il joue, il swipe, il joue, il swipe. Et c'est quoi l'état de son cerveau dans quelques années, tu vois? Ça fait peur, tu vois. T'ajoutes maintenant des lunettes, des machins et tout. Et ce qui est marrant, c'est que tu regardes des mecs comme Zuckerberg ou c'était Bill Gates qui disent ouais, pas d'écran à la maison avant 14 ans, tu vois, pour mes enfants, tu vois. Par contre, je te le vends bien à l'écran. Et ouais, je mets bien des enfants dans la pub, tu vois. Je préfère faire comme ils font.
Ils ne montrent pas les enfants en train de les utiliser. Non. Okay. Ils montrent. Enfin, dans la vidéo que j'ai vue de Apple, en tout cas, ils ne montrent pas les enfants en train de l'utiliser.
Pas encore.
Le papa en train de l'utiliser. Mm. Donc, ouais, je pense que tu as juste 30 ans, quoi.
Non, bah oui. Mais après, je te parle, moi, dans le cas où tu as des enfants, je ne te parle même pas pour moi, tu vois. Jamais.
Oui,
je vais
bien sûr. Je sais que
ton gosse de 5 ans, tu lui mets des lunettes de réalité. Et il y a des gens qui vont le faire.
Ah non, mais c'est sûr. Enfin,
je trouve ça.
Aujourd'hui, tu dis ça, mais j'aimerais bien voir lorsque tu auras des enfants et le gosse, il arrête pas de pleurer. tu veux bosser.
Franchement, je préfère avoir une nounou. Si vraiment moi, en tant que personne, je sature, tu vois, je préfère avoir une nounou qui l'emmène faire des activités, tu vois. En mode, ok, laisse-moi tranquille.
Mais la nounou va bien, elle va pas être là 24 heures sur 24.
Je vais pas saturer H24 non plus, tu vois.
Non,
le pauvre enfant, j'en ai marre.
Non, mais c'est pas un moment, t'es en voyage.
Ah, bien sûr, tu vas être testé. Ah, t'es testé. Et beaucoup disaient ça, j'avais regardé, je crois que c'était sur Twitter. Ils disaient, moi, je disais jamais d'écran, machin. Et au final, t'es testé. Ah,
moi, j'ai vécu. Il y a ma petite sœur qui a eu un enfant il y a 2 ans aujourd'hui. Plus que ça. mais je l'ai vécu hein, en visitant, en allant chez elle. C'était. Il savait utiliser YouTube, il savait cliquer, il ne savait pas encore parler, tu vois.
Mmh.
Il ne savait pas encore parler, mais je suis laissé choisir sa dessin animé sur YouTube. Il s'est manipulé, changer de vidéo. Ils ne lui ont pas appris en plus.
Mmh. Ah ouais, mais ils sont.
C'est fou, hein. Ils ne lui ont pas appris. Ouais. Juste en regardant ce qu'ils font,
ouais.
Il fait pareil maintenant. Et des fois, voilà, des fois, par exemple, on voulait manger, on est à table, et il veut pas manger, il veut jouer, il veut crier, il veut l'attention.
Mmh.
Et la seule solution, c'est de donner un téléphone, en fait. Donc, tu donnes un téléphone, il se calme, il est là, concentré, assis.
Il faisait comment, tes parents?
Ah, les parents, c'était...
les parents, c'est toujours top, mais ça reste des êtres humains.
Ça reste des êtres humains et voilà, c'est aussi à l'ancienne
une claque comme ça, tais-toi.
À l'ancienne, tu te laisserais pleurer, tu sais,
ouais.
Je pense. Mais je pense que aujourd'hui, les parents sont tellement sensibles.
Ouais.
Qu'ils n'osent pas laisser leurs parents pleurer.
Chacun ce qu'il fait, ce qu'il veut. Moi, je dis ça, mais on verra. Mais je ferai de mon mieux en tout cas.
Yep. Ouais, en fait, c'est pas évident, c'est sûr et certain.
C'est certain.
Et hein. Dis-toi, par exemple. Tu te dis à ton gosse, parent de 14 ans, c'est ça? Un téléphone, c'est ça?
C'était Bill Gates qui avait dit ça, ouais. Parent de 13 ans, 14 ans.
Il sent le repli, là.
Non, mais vas-y.
C'était pas moi, c'était Bill Gates.
Ouais, après, là, on parle d'utilisation. Ce que je sais, tu vas me dire, du coup, il va être en retard avec les ordis à l'école et
il va venir.
Dernier de la classe.
Non, c'est même pas ça. C'est même pas question d'éducation. Il va venir, il va dire, je suis tout seul, à pas avoir de téléphone, t'es nul. Tout le monde a un téléphone, tout le monde a des réseaux sociaux.
Ça,
je suis isolé.
Ça, je l'ai vécu ces dernières années, parce que moi, j'ai 3 petits frères qui sont très jeunes, tu vois.
Ouais.
Et j'ai même changé les couches des 3. Donc, j'ai quand même un petit peu d'expérience, même si c'est pas mes enfants, c'est pas du tout pareil. Mais je sais qu'il y a eu récemment, là, ils ont une dizaine d'années, 17 pour le plus grand, mais il y a eu l'époque de il a un téléphone, moi, j'ai pas de téléphone, tu vois.
Entre les frères,
entre les frères, ouais, parce que le premier qui a 17 ans, il avait un téléphone. Okay. Moi, j'ai pas de téléphone.
C'était quoi la solution?
Tes solutions, c'est mon père, il a dit tais-toi, t'as rien du tout, tais-toi. C'est tout, tu vois.
D'accord.
Pourquoi, comment, tais-toi, t'es pas content, va là-bas.
Ok. Donc, tu vas faire pareil, c'est ça?
Eh, je suis l'exemple. Et... Non, je trouve que c'est. On verra après, ça dépend du nombre d'enfants que t'as et tout. Mais je pense que clairement, avant 10 ans. Beaucoup monitorer la chose. Après, c'est sûr que faut jongler derrière. Si ton gosse sait pas se servir d'un ordinateur, il est perdu. Pour son avenir va être compliqué, quoi.
Ok. Après, ouais. T'es pas obligé de commencer à 12 ans pour être bon en ordi, hein. Tu peux commencer. Nous, on n'a pas commencé à 12 ans à avoir un ordi.
Mmh. Ah oui, je dis ça. C'est un exemple comme ça.
Ouais.
De toute façon, ils font des cours aussi à l'école maintenant de plus en plus, hein. En tout cas, en France. C'est assez accessible, t'as beaucoup de cours d'ordi et tout. assez rapidement, de plus en plus, hein, leur emploi du temps, c'est en ligne et tout. Je vois mes petits frères, ils ont des trucs que j'avais pas du tout, moi, déjà. Alors que j'ai pas quitté le système scolaire il y a longtemps, mais emploi du temps en ligne, t'upload tes devoirs sur les serveurs en ligne, t'as des corrections du professeur en ligne et tout. Ils ont leur prof sur WhatsApp, ils les appellent. Ça va vite, hein. Ça va vite.
C'est du bon coaching, ça.
C'est pas mal, ouais. Si t'as des bons profs qui se dévouent pour leurs élèves, c'est cool.
Après, là, t'as ChatGPT, il va faire leur devoir. Là.
Ah, mais t'en as beaucoup qui ont déjà essayé. Hein.
Et ce qui est drôle, c'est en fait, avec l'intelligence artificielle, en fait, beaucoup de profs pensent être malins et tester, en fait, les devoirs de leurs élèves dans des détecteurs de l'intelligence artificielle pour voir si c'était généré par l'intelligence artificielle ou pas. Sauf que, en fait, et ils trouvaient qu'il y avait des devoirs, des examens faits par ChatGPT, tu vois.
Ouais.
Donc, ils donnaient des zéros, tu vois.
Et tiens.
Même dans des études supérieures, tu vois. Donc, les gens, ils se prenaient des zéros. Il y a même à un moment donné, une classe aux États-Unis, tout le monde s'est pris un zéro. Mais en fait, ce que les profs ne savent pas, qu'ils ne savaient pas avant, c'est qu'il n'y a pas de détecteur, en fait, d'intelligence artificielle, en fait.
Ah.
Parce que tout le but de l'intelligence artificielle, bah, c'est d'imiter l'humain, en fait.
Mm-hmm.
C'est ce qui fait que c'est une intelligence, en fait. Donc, c'est pas détectable. Et il y a plein d'outils, malheureusement, qui ont profité du début où il y a eu l'annonce de ChatGPT pour créer des outils. Et en fait, c'est juste un générateur de résultats au hasard. C'est fou, c'est vrai, c'est fou, c'est vrai. J'ai même testé, hein. Des fois, je copiais le même texte plusieurs fois. Des fois, le résultat est différent.
Ah, c'est mal intéressant.
Changer un mot, résultat différent.
Ils faisaient de la pub avec AdSense, quoi, les mecs.
Ouais, c'était des faux outils.
Du trafic,
tout simplement. Ouais. Ouais. Et malheureusement, beaucoup de profs.
Tu prends des zéros. Alors
ils ont mis des zéros.
Tu veux lui expliquer, mais non, c'est pas. Je l'ai écrit et tout.
Non, je suis allé sur détecteur d'intelligence artificielle.com.
Tu me la fais pas, hein. Tu me la fais pas, gamin.
Ça marche.
Oh là là. Arrête, t'en as, j'ai vu des trucs aussi. T'en as, ils copiaient le chat GPT. Ils oubliaient.
Ah, oui.
Je suis une intelligence artificielle, ils oubliaient de l'enlever. Si tu triches, fais-le bien. Tu vois, ça, j'aime pas. Il n'y a pas de rigueur. Même dans la triche, ils n'ont pas de rigueur.
Oh,
moi,
oui.
À l'époque, quand je trichais un petit peu, je n'ai pas triché beaucoup, mais j'ai un peu triché. Je le faisais avec rigueur, tu vois. Tu le fais bien.
Tu n'as pas honte de dire ça?
Non, après, je trichais pas. Après, tricher. C'est souvent. Moi, j'étais assez un petit peu flemmard quand même, tu vois. La veille, tu avais un devoir à faire. J'avais un bon ami qui avait fait, genre, je sais pas, une dissertation. Je prenais les grandes lignes et je réécrivais tout à ma façon, tu vois. Mais il y en a, ils recopiaient le même. Et tout le monde prenait zéro. Sois malin. Après, c'est pas vraiment de la triche. C'est juste que c'est du partage entre élèves qui se serrent les coudes.
Ah ah. C'est en train de justifier la triche, là. Là, t'as
avoué. Ne trichez pas, c'est mal. Non, c'est pas. Je sais pas. Est-ce que c'est de la triche? Genre, t'as une dissertation à faire sur une question philosophique.
Tu reformules.
Est-ce que l'intelligence artificielle est humaine? Oui ou non? Tu l'as pas fait, c'est demain à 8h, il faut le rendre. Moi, je viens, je te dis, écoute, utilise le mien, mais recopie pas. Mais prends mes grandes idées si tu veux et fais-le à ta sauce. Est-ce que tu as triché?
Je laisserai les auditeurs juger. Laissez-nous en commentaire, les amis. Est-ce que Adam a triché, les amis? Est-ce que Adam a triché?
Je dois repasser mon bac.
Laissez-nous ça en commentaire.
Est-ce que ça a une valeur, le bac? En vrai,
aujourd'hui.
Ouais. Parce que moi, j'ai mon petit frère qui passe son bac, là. Je suis dedans. L'éducation, on en parle beaucoup, mais moi, j'ai mes petits frères qui sont en plein dedans, tu vois. Et j'ai l'impression que c'est quoi le taux de succès en France aujourd'hui? 80, 85. Et moi, je l'ai vu, hein. J'essaie de suivre un peu la scolarité de mes petits frères, tu vois. Et je vois dans les classes, ceux qui sont le plus en difficulté, ils passent toutes les classes. Vas-y, va l'année prochaine, va. Et dès qu'ils ont 16 ans, ils les refusent dans la classe d'après. Parce que l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans.
Ouais.
Arrivé à 17 ans, ils se font refuser dans la classe. T'as pas le niveau. Ils les font pas redoubler, il y a pas assez d'effectifs, il y a pas assez de profs, les profs en ont marre, les élèves ils respectent plus rien parce que à la maison ils ont pas pris de claque, ils respectent pas les profs, du coup les profs ils en ont marre. Vas-y, tout le monde passe. T'as 16 ans, toi au revoir. Et voilà.
OK. Je sais qu'il regarde le
mes parents regardent. Ouais.
Je sais pas si lui regarde le podcast.
Je pense pas qu'il regarde tous les épisodes. Mais... Ah, c'est Adam à la télé. Ouais, let's go.
Il pourra peut-être le transmettre, hein, s'il regarde cet épisode-là, ouais. Bah, est-ce que les études c'est important ou pas? Qu'est-ce que tu lui dirais, en fait?
Ah, j'ai déjà dit, là, il a fait ses vœux et tout.
Ouais.
Après, lui, il a déjà trouvé un truc qui lui plaît, il veut faire ça, il veut aller là-dedans. Je lui ai dit, bah, écoute, si ça te plaît, vas-y. Hein. Si ça te plaît pas, te force pas, tu vois.
Mm-hmm.
Genre, si, en fait, c'est pareil. Si tu veux devenir vétérinaire, tes études de vétérinaire, elles sont importantes. C'est ça ton kiff, tu veux devenir vétérinaire.
Ouais.
Donc, tes études deviennent importantes, parce que c'est ce qui va te permettre de faire ce que tu aimes.
Ok. Mais si c'est pas encore ce qu'il veut faire.
Ah, si tu sais pas ce que tu veux faire.
Je sais pas, il a quel âge, là? 17, c'est ça?
17. Il va avoir 18.
17 ans, tu sais pas ce que tu veux faire. Hein. 17 ans, tu veux jouer à Fortnite et.
Je sais pas si je
veux.
Avec
encore... les meilleurs, tu vois.
Ouais.
Tu veux devenir si streamer, tu veux devenir joueur de jeux vidéo professionnel.
Tu sais que j'ai vu une plateforme, là, on dérive, mais j'ai vu une plateforme qui se lance, là. C'est un sujet business aussi, qui s'appelle Kick. K-I-C-K.
Ouais. Connais.
Donc, il lance en concurrence avec Twitch. Twitch qui a été racheté par Amazon, qui est la plus grande plateforme de streaming, donc de contenu vidéo en direct, où tu as des gens qui ont fait carrière, mais une minorité. Et c'est un gros problème de la plateforme parce qu'il faut vraiment avoir de très gros chiffres pour gagner sa vie. Une nouvelle plateforme arrive, Kick, et qui propose de rémunérer les gens qui stream, donc ils vont en direct comme ça, en vidéo, 16 pounds, donc on va dire 17 euros de l'heure. Sans aucune condition de nombre de spectateurs.
Mmh.
Donc aujourd'hui, à condition d'être réveillé, d'animer sa communauté et de respecter les règles, machin, aujourd'hui, tu crées ta chaîne Kick et tu te lances et apparemment, tu es rémunéré 17 euros de l'heure. Mmh. Et ils ont calculé aux 35 heures, tu ferais 2500 euros net à streamer chez toi du contenu. Allez, c'est parti, on va parler de cuisine aujourd'hui. On va cuisiner.
Ouais, après, ouais, c'est un petit coup marketing quand même.
C'est une offre
hein.
de lancement.
C'est une nouvelle.
On se comprend, voilà, bien sûr. C'est quoi la stratégie? Pourquoi ils font ça, ça?
Ah, mais est-ce que tu es en train d'esquiver la question, là?
Non, pas du tout.
À ton petit frère. Là, ton frère, il attend, là.
Je lui ai déjà répondu, je lui ai déjà envoyé des vidéos, on en parle tout le temps.
Bah oui, mais là, tout le monde veut savoir aussi. Qu'est-ce que tu lui as dit, justement, en vidéo?
Bah, je lui ai dit que, vas-y, si c'est ce que tu veux faire, est-ce que c'est ce que tu aimes? Est-ce que tu veux faire ça? Tu aimes ça? Oui, oui. Bah, vas-y.
Donc, pour le bac, est-ce que tu aimes faire le bac ou pas?
Ah oui.
Non?
Bah, il va le passer, le bac, là. Dans
okay,
deux semaines.
Donc, c'est même pas question.
Il va pas quitter le bac. Adam m'a dit de pas y aller, les gars.
Moi, je veux pas continuer. Pourquoi faire un bac?
Bah,
si,
parce qu'il sait déjà ce qu'il veut faire comme études.
Si t'avais dit ça, bah, écoute, je veux pas faire plus d'études.
Ouais. Bah, si.
Passe pas le bac.
Après, ok. Après, si tu me dis derrière, je veux devenir plombier et j'ai déjà trouvé ma formation de plombier, vas-y. Tu veux, si ça te fait kiffer.
Mm-hmm. Donc, c'est suite à passion, en gros. C'est pas ce qu'on dit souvent dans le podcast. Hein.
Bah, en fait, oui et non. Je pense que quand même, on dit souvent que si vous aimez votre travail, ben, vous pouvez ignorer certains de nos conseils de changer de vie, tout plaquer ou quoi que ce soit. Même si on n'a jamais dit tout plaquer. Mais à partir du moment où t'aimes ce que tu fais, est-ce que t'as déjà pas une bonne base de remplie? Une bonne case de cocher? J'aime ce que je fais. Genre, je suis bien là. Je suis prof de basketball. En France, c'est prof de sport. J'ai pas mal d'amis à moi, ils sont profs de sport. Ils kiffent ce qu'ils font.
Ouais.
Ils se plaignent pas, tu vois. Ils aiment bien. Expat, ils font ça dans des lycées français à l'international. Ils kiffent ce qu'ils font. Ils kiffent le pays où il est. Bon, il est au Maroc pour les lycées français au Maroc. Prof de sport, paye française. Il vit au Maroc.
Ouais, après, lui, c'est un cas un petit peu spécial.
Sa vie.
Mais la majorité des gens.
6 mois de vacances par an.
Ce qu'ils kiffent, ils ont pas. Tu kiffes un truc, mais malheureusement, t'es pas rémunéré financièrement derrière. Tu pourras jamais atteindre la liberté financière en étant prof de sport dans une école, dans un collège en France. Tu vois la rémunération derrière ne suit pas.
Ouais, oui.
Beaucoup de gens aimeraient faire de la peinture à longueur de journée. Un artiste aujourd'hui en France, un artiste, la majorité.
Oui, tu gagnes rien du tout.
Tu vois. Donc, oui, tu aimes ce que tu fais, mais derrière, financièrement,
je pense
au premier
que...
pépin, t'es mal.
Ouais. Je pense qu'il y a un combo des deux. Du coup, si tu veux vraiment te lancer dans quelque chose que tu aimes, type la peinture, c'est sûr qu'il te faut un plan de monétisation, il te faut quelque chose derrière. Peut-être des compétences en plus.
Ouais. Mm-hmm. Donc, on dirait quoi, là? On dirait. Suite.
Je pense que ça dépend ce que tu veux faire. Parce que tu vois, le mec qui est passionné d'animaux et qui devient vétérinaire, tu montes bien ton truc, tu peux être propriétaire de ton cabinet de vétérinaire, tu roules bien ta bosse, tu peux avoir d'autres vétérinaires dedans. tu peux avoir une petite, t'as un potentiel quand même, hein, de
croissance. Ouais, vétérinaire, c'est pas, ouais.
Ça dépend donc du, tu vois, ça dépend de ta passion. C'est pas philosophe. Lui, il m'aurait dit, je veux devenir philosophe, tu vois. J'aurais dit, fais ça le week-end.
Ok, donc t'as rajouté aussi une autre condition.
Ça dépend ce que tu veux faire.
Passion, mais pas, passe tout ce que tu aimes, quoi. C'est...
Ouais. Genre, il aimait bien l'histoire, tu vois. Enfin, il aime bien l'histoire. Il hésitait à faire des études d'histoire. Je lui ai dit non, tu vois.
Ah.
Je lui ai dit non. Je lui ai dit, je lui ai dit histoire.
Les gens sont perdus, tu vois. Faut aimer, mais bon, pas, il faut pas tout faire non plus.
Si tu aimes et qu'il y a du financier minimum à côté, c'est ok.
Ah, donc il y a une intersection, c'est ça, entre
T'as plusieurs,
ce que j'aime et
ce qui est un minimum monétisable.
Potentiel financier, quoi.
Un minimum. Donc ouais, les trucs genre je veux devenir peintre, je veux devenir surtout les études d'histoire, les études de philo en France. Tu vas, t'as pas vu, mais dans les amphithéâtres, il y a rien là-bas. Hein. C'est un cul-de-sac.
Ouais, bien sûr. Il y a plein de pièges.
T'as des mecs qui fument toute la journée.
Donc tu dirais qu'il y a une intersection entre ce qui est demandé dans le marché, on va dire, parce que là forcément il y aura plus de récompenses financières, et ce que tu aimes faire.
Ouais, si t'arrives à cocher ça, c'est pas mal.
Mmh. Mais est-ce que ce que tu aimes faire n'évolue pas aussi? Est-ce qu'il change pas, en fait?
Je pense.
Parce que ce qu'il aime aujourd'hui à 17 ans...
Ouais, ouais, je pense.
Dans 5 ans, ça va changer.
Mmh. Et c'est là que tu as, je pense, deux types de personnes. Personnes qui vont pas forcément s'en rendre compte ou se poser les questions et continuer dans un truc qu'ils n'aiment plus forcément et se réveiller 30 ans plus tard. Ou les personnes qui vont avoir l'état d'esprit et de se dire ok, l'honnêteté de se dire j'aime plus ça en fait, donc je le fais pour un salaire, mais ça va durer 2-3 ans et à la fin humainement je vais plus être capable, donc je change. Et c'est pas évident parce après ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Si au moment où tu te rends compte que t'aimes plus ça, mais t'as 3 crédits, la maison, la voiture, les trucs, tu vas jamais changer, donc tu vas être prisonnier. Donc ça revient aussi à avoir un minimum d'éducation financière et pas prendre des crédits à la conso, des crédits à la voiture, des crédits pour partir en vacances. Si tu te mets des chaînes toi-même.
Et pourquoi tu ne le conseilles pas
de lancer son business en ligne?
De faire comme tu as fait en fait. Parce que toi, tu n'as pas aimé l'e-commerce pour faire de l'e-commerce.
Ouais, j'ai un dilemme de me dire, est-ce que c'est moi qui dois lui servir sur un plateau, lui dire vas-y, tiens, l'intelligence artificielle en ce moment... C'est la folie.
Non, c'est même pas question de... C'est même pas le business spécifique, mais juste le concept, tu vois, le prémisse, en fait. C'est, tu lui as dit, fais ce que tu aimes d'abord, alors que toi, tu n'as pas fait ça, en fait. Tu n'as pas fait ce que tu aimes d'abord. Tu as fait ce que...
Ce qui a rapporté du cash.
Ce qu'il fallait faire.
Ce qu'il fallait faire, ouais. Après, c'est né d'une douleur, parce que j'aimais pas là où je m'étais engagé. Et de cette douleur, je me suis dit, bah vas-y, j'aime pas ça, tu trouves autre chose. Mmh. C'est sûr que si j'aurais aimé mes études, j'aurais certainement pas cherché d'autre solution et je serais très certainement salarié dans un truc qui me plaît. C'est fort possible. Donc d'un côté, ouais.
Ouais,
le fait de pas avoir aimé ce que je faisais m'a poussé à trouver autre chose. Donc est-ce qu'il faut dire à tout le monde de faire des trucs que vous détestez, ça va vous mettre dos au mur et tu vas pouvoir trouver vraiment ce que tu dois faire.
Ouais, après, moi, là, tout de suite, je dirais, moi, il faut apprendre à aimer ce qui doit être fait, plus ou moins. Tu vois.
Mmh.
Parce que ce que tu aimes aujourd'hui change, va changer demain, dans quelques années. Et c'est pas forcément le meilleur choix. Comme je disais tout à l'heure, à 18 ans,
t'as aucune idée.
Moi, j'adore les jeux vidéo, tu vois. Je t'aurais dit, je vais passer ma journée à jouer aux jeux vidéo. C'était vraiment ce que j'aime. Mais ça jamais une bonne décision, en fait, de faire ça. Donc, je pense pas que c'est question d'aimer ou pas aimer, parce qu'encore une fois, ça évolue. Et que on peut apprendre à aimer des choses lorsque c'est lié à une vision, à un truc plus grand que nous, ou même un truc plus long terme. Par exemple, je sais pas, pour faire du sport, t'es pas forcément, tu veux pas, t'aimes pas forcément un sport spécifique, mais t'as un objectif d'être en bonne santé. Donc, tu apprends à un moment donné à aimer le sport.
Ouais.
Je me rappelle, il y a quelques années quand même.
Quand tu démarres, tu détestes. Hein.
Tu détestais le sport. Ouais. Je me rappelle, tu voulais même pas faire un match de foot, tu vois. T'aimais pas du tout ça. Aujourd'hui, t'as l'air de kiffer, etc. Tu vois.
Ouais, t'apprends. Après, il y a un délire d'hormones, mais ouais, t'apprends à aimer ça. Après, du coup, concrètement, dans les faits, enfin, sur le papier, la phrase fait sens. Concrètement, apprendre à aimer ce qui doit être fait. Qu'est-ce qui doit être fait?
Bah, ce qui doit être fait, c'est par rapport à ce que toi tu veux. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie, en fait? Donc moi, je redis à toute personne qui est dans ce cas-là, c'est bah, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux accomplir? Par exemple, dans les 5 à 10 prochaines années, tu vois. Si c'est par exemple la liberté financière, bah, je vais pas te dire, suis ta passion, tu vois.
Tu vas me dire quoi?
Bah, je vais dire, deviens entrepreneur.
Ok.
Crée un business. Apprends des compétences qui valent de l'or dans le marché aujourd'hui. Après, je sais que c'est pas évident pour. Surtout lorsque c'est de la famille, c'est un petit frère et j'ai même cas aussi, j'ai un petit frère aussi et tout. Je sais que c'est pas évident et on a tendance à souvent donner des trucs qui sont différents de ce que nous on a eu, tu vois.
Ouais.
Et
Ah, peut-être tu les sous-estimes, peut-être c'est l'orgueil.
Ouais,
peut-être
tu veux te protéger aussi.
Ah, la route c'était blindé d'embûches, la route, tu vois. Qu'on a vécu, c'est. Il y a eu des hauts, il y a eu des très très bas. Je sais pas, ouais, peut-être c'est la protection de se dire vas-y, c'est trop, c'est too much.
Ouais, c'est vouloir les protéger.
Mm.
Mais quand c'est pas ton petit frère, tu dis à n'importe qui, lance-toi.
Quitte ton job.
Ça va être dur. Ou, gagner ou apprendre.
Ouais.
Donc ouais, c'est je sais que c'est pas évident, c'est pour ça que je t'ai poussé un petit peu là-dessus. Et bah écoute, ça fait déjà une heure qu'on est en live. On est en live, pas en live du tout.
On est en ce podcast.
Yes.
Il y a plein de petits jeunes qui gagnent, qui monétisent beaucoup leur. Enfin, c'est aux États-Unis, mais leur savoir sur Twitter maintenant. Les business models, c'est Twitter. Parce que Twitter, c'est un aspirateur à attention en ce moment aux États-Unis. Twitter, ils sont experts dans quelque chose. Ils font des threads là, tu sais, des posts quoi, en 4-5 trucs. Ils donnent de la valeur gratuite constamment et ils envoient vers soit des formations, soit des Discord payants. Il n'y a pas de site web, ils n'ont pas de funnel. J'ai vu une vidéo de Sam Owens qui parlait de ça. Il disait c'est la nouvelle génération d'entrepreneurs. C'est Twitter, ils balancent à fond. Tu veux en savoir plus, tiens un lien. Pas de site, pas de pub, pas de rien.
Ouais, ça me rappelle un petit peu il y a quelques années sur Facebook, c'était ça. Hein. C'était des gros posts de valeur, page de valeur. Laisse un commentaire et je t'envoie vers un lien.
Ouais.
Bananerie, tout ça, ils ont commencé avec ça.
Mmh.
Bah, ouais, donc voilà, on a trouvé un.
J'ai regardé les chiffres.
Un filon pour lui.
J'ai regardé les chiffres sur Twitter en France quand même.
Créateur de contenu sur Twitter.
Il te faut sur une compétence ou une expertise que tu as appris ou que tu maîtrises ou que tu es à un niveau N+1 des gens. Pas forcément le meilleur, mais t'es une étape devant les gens, donc tu peux leur apprendre l'étape suivante.
C'est ça, exactement.
Et qu'est-ce que je disais? Ouais, t'as 20% de la population qui utilise Twitter en France. Hein. C'est okay. Pas mal. Hein.
C'est
monté à 22, je crois, depuis 2020. Et la moitié ont plus de 35 ans.
Ouais, surtout, il y a pas beaucoup de...
Donc, tu as quand même 10% de toute la France qui a plus de 35 ans qui est sur Twitter. Est-ce qu'on ne devrait pas commencer à donner, nous aussi, de la valeur sur Twitter et se faire connaître un petit peu là-bas sur 10 millions de personnes potentiellement?
Franchement, là, ça fait trop de plateformes. Là, il faut poster un TikTok, un short, un...
Mais la majorité n'écrivent pas sur Twitter. Ils ont
ils ont des
ghostwriters qui écrivent. Mais ils reprennent un TikTok et ils l'écrivent en Twitter et ils le balancent. Vous avez démasqué le secret de l'industrie, les amis.
Je ne sais pas si c'est démasqué, hein, si c'est leur contenu à eux qui est.
Ouais, c'est pas eux qui tapent, quoi.
Transcrit, reformulé. Pourquoi ça changerait quoi que ce soit tapé par toi ou par moi ou par quelqu'un
d'autre. De toute façon, c'est comme les bouquins, la majorité des bouquins.
C'est mieux écrit, je dirais.
La majorité des bouquins ne sont pas écrits par les gens qui sont sur la couverture, même si c'est leur histoire.
Wow, pourquoi? En plus, il y a le livre en milieu, là, tu dis ça. Tu oses dire ça, là.
Je parlais même pas.
Je suis sur la couverture.
Je parlais même pas du livre.
Là.
Non, je parlais de la majorité ont des ghostwriters, tous.
Yes. Bah écoutez, les amis, On arrive à la fin de ce podcast. Merci de nous avoir écouté jusqu'à la fin. Laissez un petit pouce bleu sur la vidéo, ou alors si vous écoutez sur la différentes plateformes, un avis, ça nous, nous encourage à continuer à vous poster des podcasts. Merci à tous et à la prochaine fois. Ciao, ciao.
Ciao.
Et encore une fois, merci les amis de nous avoir écoutés. C'était le Sad Ben Show. Et si vous voulez revoir tous les autres épisodes, je vous invite à aller sur sadbenshow.com. N'hésitez pas encore une fois à nous laisser un avis positif sur toutes les plateformes, un pouce bleu pour nous encourager à vous donner encore plus. C'était Saad. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao.